Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois, toujours heureux de vous retrouver. Comment présenter notre invité de la semaine? Au gré du temps, il a parcouru tellement de sentiers différents, ou peut-être non, était-ce un sentier unique parsemé de mille découvertes? Diplômé de l'École nationale du théâtre du Canada en 1972, on l'a d'abord connu comme comédien ou acteur. C'était la voix de Perlin, le père de Canel et Pruneau dans l'émission Passe-partout. D'autres se souviendront peut-être de son rôle dans le téléroman jeunesse écrit par Louise Matteau et Normand Gélina Avec le temps, diffusé au milieu des années 70. Mais c'est aussi un communicateur qui a fait de la radio, qui a touché à la chanson comme interprète, mais aussi comme auteur. Il a été président-directeur général de la Société pour l'avancement de la chanson d'expression française, la SACEF. L'écriture occupe une place aussi très importante dans sa vie. Et que dire, sinon qu'au tournant du millénaire, sa vie a pris un virage sur cette longue route en quête probablement de sa destination bonheur. Robert Maltais est avec nous. Bonjour, Robert.
Bonjour.
Ce qui est frappant, Robert, quand on regarde votre parcours, c'est l'éclectisme des choses auxquelles vous avez touché. Dans la présentation, j'ai parlé d'acteur, auteur, écrivain. Vous en avez fait des choses.
Et en même temps, ce que vous disiez est également vrai. C'est un chemin. C'est une même voie. En fait, je suis en recherche spirituelle à travers des moyens artistiques pour l'expression de la recherche. Mais fondamentalement, ce qui m'intéresse depuis que je suis tout petit, c'est le sens de la vie. Le fait qu'à 7 ans, je savais que je mourrais a changé tout le reste. Je ne pouvais pas avoir cette information-là pour rien.
Donc, c'est cette quête qui vous a peut-être amené sur le sentier artistique?
Quand j'ai fini mon cours classique au séminaire de Chicoutimi, l'orienteur, qui était un prêtre, après une série de tests, m'a dit, « Écoute, tu sais, Vigneault, là, le chanteur, 67, il commençait, tu devrais faire pareil, tu devrais faire un artiste. » Un prêtre qui dit ça dans un séminaire, c'est quand même un peu spécial. Et alors que moi, c'était pas vraiment, j'aurais voulu m'accrocher à quelque chose de plus solide, une profession. J'avais des envies de devenir moine, de devenir prêtre, de devenir avocat. Et finalement, c'est des rôles que j'ai joués.
Mais oui. Mais si on vous a dit cela au moment où vous étiez au séminaire, était-ce parce que vous aviez un côté, j'allais dire, ténébreux ou secret ou intérieur?
L'opposé. J'étais un communicateur. Déjà, voyez, j'avais eu ma propre émission de radio à la radio CJMT de Chicoutimi qui s'appelait Micro-étudiant. Quand il y avait des spectacles, souvent on me donnait le premier rôle. Si on formait un groupe et quelqu'un avait à prendre la parole, on me confiait ça. Par exemple, Félix Leclerc était venu chanter au séminaire et c'est à moi qu'on avait demandé de présenter Félix. Et je m'étais bien amusé parce que je l'aimais beaucoup. J'avais fait un montage, j'avais lu tout ce qu'il a écrit et j'ai fait un montage d'extraits collés et il n'y avait pas un mot de moi. Ça se tenait et ce n'était qu'un montage de ses textes à lui et lui s'en est rendu compte.
Comme vous parlez de quête de sens, d'entrée de jeu, nous allons tout de suite aller en musique.
Oui.
Avec une pièce qui s'y prête bien, c'est une pièce extraite du répertoire du Grégorien, qui a pour titre Concordie Laetitia, et ce sont les moines de l'abbaye bénédictine de Saint-Benoît-du-Lac.
Adio, res quod ante comimur.
avec nous aujourd'hui Robert Maltais, comédien, auteur, communicateur. Donc, vous disiez que vous aviez fait une espèce de repiquage de textes que vous aviez probablement mis dans un endroit presque secret ou que vous avez exposé à tous.
Non, je suis venu, personne ne savait ce que je ferais. Je suis venu sur scène et pendant 3 minutes, j'ai lu ce texte que j'avais écrit. Et après le spectacle, je me suis retrouvé seul avec Félix Leclerc. Là, on parle en 64, dans une loge qui était en fait une chambre d'étudiants. Et pendant une demi-heure, j'ai pu, seul avec lui, discuter parce qu'il s'est rendu compte de ce que j'avais fait.
C'est une rencontre formidable, ça.
Écoutez, et maintenant je vois ça dans ma soixantaine, ce que ça devait donner pour lui. Je lui posais des questions sur ses personnages, comme on demande des nouvelles de la famille de quelqu'un.
C'est incroyable.
Et lui me répondait de la même façon, parce que maintenant, j'ai 4 romans de publiés, je sais ce que c'est. Nous portons une famille. Mes personnages, c'est une partie très importante de ma famille. Donc, il y a une communication là qui s'est établie avec Félix Leclerc, que j'ai eu l'occasion de revoir quelques fois ensuite dans ma vie. Et c'est sûr que des rencontres comme ça sont marquantes.
Est-ce que vous pensiez, est-ce que vous aviez conscience d'être devant une colonne du temple, d'être devant un monument à ce moment-là, non?
J'avais conscience d'être devant un univers, d'être devant un pays, d'être devant un homme qui était libre et qui créait. Je trouvais qu'il chantait bien, je trouvais qu'il écrivait bien et j'avais confiance en lui. Il me faisait penser à certains de mes professeurs. Je suis un baby boomer et je suis remis de ma crise d'adolescence par rapport à l'Église, aux prêtres, aux clergés, aux professeurs des séminaires. J'ai des souvenirs d'hommes exceptionnels. J'ai eu des professeurs qui ont été des richesses dans ma vie.
Donc, c'est un beau passage pour vous, cette jeunesse.
Cette jeunesse d'études est un très, très beau temps pour moi parce que, étant donné le milieu d'où je sortais, j'ai compris que si je ne m'instruisais pas, je n'arriverais à rien. J'avais besoin d'étudier parce que rien ne m'avait été donné.
Diriez-vous que par votre nature, vous preniez déjà, vous saisissiez l'essence même de la vie dès votre plus jeune âge, parce que vous en parlez encore avec beaucoup d'émotion, vous exprimez à quel point cette période a été riche. Est-ce que déjà vous sentiez que la vie était peut-être passagère et qu'il fallait la saisir au vol?
J'aimerais tellement ça, saisir l'essence de la vie à pleine main, Monsieur Dubois. Mon Dieu, j'aimerais ça. Je travaille là-dessus. Mais effectivement, et je crois que si on s'arrête tous, on n'est pas tellement différent de ce qu'on était à 6, 7, 8 ans.
C'est Vigneault qui disait que nous sommes tous issus des îles de notre enfance.
Très joli et très juste, absolument. Oui. Parce que c'est vrai que quand on est seul, jeune, on est seul. Très seul, tout en essayant toujours de jeter des ponts vers les autres. Alors, en parlant des îles, il permet de constater qu'on voit qu'il y a d'autres, mais on est quand même seul sur son île.
Alors, pas étonnant que vous ayez choisi cette prochaine chanson qui exprime peut-être ce que vous venez d'exprimer et qui est interprétée non pas par son auteur, mais par les compagnons de la chanson.
À cause du lyrisme de leur interprétation et de ces voix magnifiques et de ce groupe d'hommes chantants.
Mes jeunes années. Bye. parler de ces jeunes années. Robert Maltais est avec nous. Donc, vous fréquentez le séminaire. Le séminaire se termine. Vous vous retrouvez où?
Je me retrouve à Repentigny, dans une école secondaire, l'école secondaire Jean-Baptiste Meilleur, à enseigner le français, car moi, je suis un orphelin à cette époque. Donc, mes deux dernières années, mes deux philos, j'ai dû les payer. Et là, j'ai des dettes. Et je me suis inscrit à la faculté de droit, tête dure. J'ai pas suivi le conseil de l'abbé Tremblay.
Donc, vous aviez décidé que vous deviendriez avocat.
Parce que j'avais de la facilité pour parler. Et aussi, il faut bien, disons les choses comme elles sont, dans ma génération, souvent, quand on ne savait pas quoi faire, on faisait un avocat.
Profession libérale.
C'est ça. Et avocat, ça permet de devenir député, ministre, premier ministre.
Et de bien gagner sa vie.
Là, il y avait un paradoxe, par contre.
C'est vrai.
Parce que je me disais... Et c'est trop carré, mais c'est un propos de garçon de 20 ans. Là. Je dis ça aux avocats et aux avocates qui écoutent. Là. Je me disais, si je deviens un avocat qui défend les gens riches et les bandits, je vais perdre mon âme. Et si je m'occupe seulement des pauvres, je vais crever de faim. C'est pas un travail pour moi. Donc, je suis allé à l'école enseignante à Repentigny une année.
Belle expérience.
Je m'entendais très, très bien avec les étudiants et j'avais un peu de mal avec la salle des professeurs. À cause du manque d'enthousiasme, je sentais une espèce de lourdeur, d'apathie et que j'avais envie de combattre. Et moi, j'avais 21 ans.
Et pourtant, on était en pleine transformation du réseau scolaire à ce moment-là, avec la création des écoles polyvalentes.
Oui, mais c'était, vous savez, j'aurais pas changé de place avec eux, hein. Parce que, à Repentigny, la deuxième année, parce que j'ai enseigné une deuxième année, il y avait l'école du matin et l'école du soir. Nous, on commençait à 3 heures de l'après-midi ou 1 heure et demie, je sais plus trop, là, de l'après-midi à enseigner. Il y avait un groupe d'étudiants qui venaient le matin, un autre l'après-midi. Imaginez la vie que ça fait à ces enfants-là, la vie de famille que ça donnait.
Quand vous dites deuxième année, on parle du primaire ou deuxième année du secondaire?
Une deuxième année d'enseignement. Non, j'enseignais en secondaire 3. Ah, c'est vrai. La première année, j'enseignais l'histoire et la géographie. Et la deuxième année, j'enseignais le français à des groupes d'enrichis. Et là, j'ai pu faire un travail meilleur. Mais il m'est arrivé quelque chose pendant la deuxième année. Je suis allé au Monument national et j'ai assisté à Génousie de René Obaldia, interprété par les finalistes de l'École nationale. Et là, je me suis appuyé dans mon banc. J'ai fait « Mais oui! »
C'est cela.
Et je connaissais personne, Chicoutimi, qui signifie « jusqu'où c'est profond ». Et j'en venais vraiment. Et là, comment on fait pour entrer ici? Il faut vous rencontrer un metteur en scène. Je suis allé au TNM rencontrer un gars de Jonquière, Jean-Roch Achard, en disant « Je le connaissais pas. Je suis de Chicoutimi, t'es de Jonquière, tu vas m'aider. » Il m'a dit, ah bon? Puis là, il m'a envoyé voir un autre gars. Finalement, j'ai préparé mon audition en pensant jamais être accepté et je l'ai été.
Alors, vous aviez probablement, dirait René, l'âme d'un poète.
Certainement, et pour longtemps, longtemps.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. c'est leur chanson qui rend de gai, qui rend de triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
L'âme des poètes, c'est celle qui anime probablement notre invité d'aujourd'hui, Robert Maltais. Ce qui vous amène donc à développer une nouvelle carrière, si j'ose dire, vous quitter l'enseignement pour devenir comédien?
J'ai jamais eu l'intention de faire une carrière dans l'enseignement. Attendons-nous, je payais mes dettes. Je savais pas ce que je voulais. Je savais pas quoi faire. Et quand je suis entré à l'École nationale, là, j'ai rencontré le mur. Je n'ai jamais rien fait de plus difficile de ma vie que l'École nationale de théâtre.
C'est vrai.
À l'École nationale de théâtre, si tu veux rester, il faut que tu montes ton cœur, ton âme, que tu baisses tes culottes, que tu perdes tes préjugés, que tu pleures, que tu ris, que tu acceptes de faire rien que ça. À mon époque, tu pouvais pas être à l'École nationale et faire autre chose en même temps. C'était une implication totale.
On apprenait à se connaître aussi profondément.
Vous savez, le préjugé des gens disant « les acteurs sont superficiels » est vraiment un préjugé. Les bons acteurs, les bonnes comédiennes sont des gens humbles, curieux, en recherche, jamais satisfaits, portant parfois le masque de la prétention. Mais ne vous laissez pas berner, c'est une protection de personnes très sensibles.
Diriez-vous cependant que ce fut une période troublante parce qu'elle vous forçait à une sorte d'introspection? On parle d'humilité, mais il faut faire ce travail.
Mais bien sûr, on avait commencé à travailler Mère Courage de Bertolt Brecht avec des masques de cuir de la Commedia dell'arte. Et il fallait exprimer la douleur de la mère à la mort de sa fille alors qu'elle n'avait pas le droit d'exprimer cette douleur. Il fallait l'exprimer sans un mot avec un masque. Et moi qui n'avais même pas pleuré à la mort de ma mère quand j'avais 13 ans, les larmes ont commencé à me couler par-dessus le masque de cuir. Parce que, habileté des enseignants, j'avais un masque.
Donc on vous a forcé à abandonner ce masque.
On m'a mis, paradoxalement, un masque de cuir dans le visage pour que je perde mon masque. On m'a aidé par un moyen technique. Et après, on enlève le masque et on peut continuer parce que ça y est, c'est fait.
Comment on en arrive à surmonter ces épreuves? Parce que ce n'est jamais facile pour quiconque de faire une introspection, de perdre son masque, parce que nous en avons tous.
Ouais.
Comment on réussit à survivre, je dirais, dans...
En fait, c'est dur au début. C'est au commencement. C'est vaincre la difficulté initiale. C'est là que c'est difficile, parce qu'après, on goûte le fruit. Et le fruit, ça s'appelle la liberté. Quand on est libre de dire ce qu'on pense et quand on se permet de sentir ce qui monte, il y a un fruit immédiat là. Et il y a une détente qui s'installe et à travers la tourmente, plus profondément que la tourmente, plus profondément que les vagues de surface, il y a la paix des profondeurs maritimes. Et quand on découvre ça, on ne veut plus s'en passer.
Mais on atteint parfois le fond. Certains vont se rendre jusqu'aux abîmes.
Absolument. J'ai des amis qui se sont suicidés. Et je n'y peux rien. C'est un fait.
Donc, ça prend quand même une force de caractère pour réussir à faire ce travail.
Oui, absolument. Oui, oui. Ça prend une force de caractère et en même temps qu'une volonté importante, une capacité égale de s'abandonner.
On va terminer cette première partie d'émission, M. Maltais, avec une pièce musicale qui nous ramène, j'allais dire, au milieu des années 40. Glenn Miller, pourquoi donc?
J'ai choisi cette pièce parce qu'elle représente pour moi le rêve nostalgique de bonheur que les Américains ont essayé de construire autour et après autour de la Première Guerre mondiale, lorsqu'ils croyaient encore être un peuple bon et que les odeurs des pères fondateurs n'étaient pas encore dissipées dans la poudre.